Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Et nous allons ce matin faire une petite coupure dans notre série des rencontres avec Jésus. Et pour voir un texte par rapport à tous ces événements autour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir le cantique de Zacharie. Mais avant cela, on va lire au chapitre 1er pour nous rappeler un peu des circonstances, de l'arrière-plan. Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Et nous lisons ceci. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, et il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 13, quand l'ange s'adresse à Zacharie, il lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » De quelle prière s'agit-il? Est-ce que Zacharie priait encore pour un enfant? Il y a un débat. Sur cette question. Mais il semble que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Zacharie lui-même, au verset 18, il reconnaît qu'il est avancé en âge. Il dit, « Je suis vieux, ma femme est avancée en âge. » Il reconnaît que les deux ont dépassé l'âge de procréer. Et puis, dans la réponse, dans la parole de l'ange, l'ange dit deux choses. L'ange dit « Ta prière a été exaucée », verset 13. Et ensuite, « Ta femme t'enfantera un fils ». Si la prière concernait un enfant, l'ange aurait pu simplement lui dire « Ta prière a été exaucée ». Mais l'ange va annoncer cette bonne nouvelle et va dire comment Dieu va accomplir et va répondre à sa prière. Et entre autres, il lui dit qu'il va avoir un fils. Et Zacharie ne peut pas comprendre cela. Mais la troisième réponse pour laquelle je pense que la prière de Zacharie ne concernait pas un enfant, c'est ce que nous trouvons dans le cantique de Zacharie, un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 67. Zacharie, donc, comme nous l'avons lu, est resté muet jusqu'à ce que Jean soit né. Et il donne, quand on lui demande le nom de l'enfant, il demande une tablette et il écrit sur la tablette « Jean est son nom ». Et là, il retrouve la parole. Et rempli de l'Esprit Saint, nous lisons verset 67, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Je ne sais pas si à la lecture de ce cantique, il y a quelque chose qui vous frappe. Zacharie, à qui, dans son âge avancé, vient d'être père, il ne se réjouit pas du fait qu'il soit père. Il se réjouit ici du salut. Premier mot pour les enfants. Il se réjouit du salut que Dieu accomplit. Et quand il mentionne son fils au verset 76, « Et toi, petit enfant », il va décrire le rôle de cet enfant qui va préparer les voies du Seigneur, mais il le décrit par rapport au Messie, par rapport au Sauveur, par rapport à ce salut que Dieu accomplit. Et donc le sujet principal de ce cantique, c'est ce salut que Dieu est en train d'accomplir, et c'est la réponse à sa prière. Et Zacharie n'était pas le seul à attendre, à prier pour une intervention divine. Rappelez-vous, en Luc chapitre 2, quand Joseph et Marie sont allés au temple, ils rencontrent Siméon et ils rencontrent Anne. Mais nous lisons au verset 38. Étant arrivée, elle aussi, Anne, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait un groupe, il y avait un reste, il y avait un certain nombre de personnes qui attendaient ce que l'Ancien Testament, et en particulier le prophète Ésaïe avait promis et avait annoncé. Nous avons lu tout à l'heure en Ésaïe chapitre 9, il y a bien d'autres passages dans le livre d'Ésaïe qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie entend que sa prière a été exaucée. Et ensuite, il entend qu'il va avoir un fils. Il ne peut pas croire cela. Il ne peut pas croire cela. Et donc, il est muet jusqu'à ce que la naissance de Jean s'accomplisse. Mais quand il retrouve la parole, donc il est rempli, comme nous l'avons lu, rempli du Saint-Esprit. Il va proclamer ce message, cette bonne nouvelle de Dieu. Et il va aussi prédire ce qu'il va se passer. Et quand l'Esprit Saint remplit quelqu'un, quel est le ministère de l'Esprit? C'est de parler de Christ. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint parle de Christ, puisque l'Esprit, son but est de nous parler du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième mot pour les enfants. Le thème donc de ce cantique est le salut, le sauveur et le salut. Et nous allons le diviser en trois parties. Le salut qui est annoncé, le salut qui est accompli, le salut qui est appliqué. Première partie, le salut qui est annoncé. Troisième mot pour les enfants. Comme Zacharie le dit, verset 70, « Comme il, c'est-à-dire Dieu, Dieu est l'auteur, Dieu est celui qui a planifié et qui est en train de l'accomplir. Mais il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. » Et rien que dans la construction de ce cantique, on retrouve le langage de l'Ancien Testament, on retrouve les propos de l'Ancien Testament. Le cantique commence « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Cela nous fait référence à certains psaumes, psaume 72, verset 18. « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. » Quand il parle de visiter, cela nous rappelle des événements. Lorsque le peuple d'Israël était esclave d'Égypte, et nous lisons en Exode 4, verset 31, il parle des anciens qui apprirent que les anciens de la nation d'Israël apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Et quand il utilise le terme de racheter, psaume 130, verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Verset 69, notre version a « Il a suscité un puissant sauveur ». Dans la marge, il est dit littéralement « une corne de salut ». Et cette image, on la retrouve dans le psaume 132, verset 17. Encore une fois, notre traduction dit « Là, j'éleverai la puissance de David ». Littéralement, « Je ferai pousser une corne à David ». Il parle, verset 71, du « Sauveur ». Qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Psaume 106, verset 10, « Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. » Au verset 72, il parle de sa miséricorde. Et là, on pense par exemple au psaume 136, où le refrain revient à la deuxième partie de tous les versets, « Car sa miséricorde dure à toujours. » Il parle de son alliance, le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. On retourne en Genèse chapitre 12. Il parle de servir l'Éternel, Jérémie chapitre 30. Il parle du pardon des péchés. On se rappelle de ce que le psalmiste dit au psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgression, ou Ésaïe 43, verset 25, où il écrit, où nous lisons ceci, « C'est moi, dit l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi, dit l'Éternel, c'est moi qui efface tes transgression. » Et dans Michée 7, verset 19, nous lisons « Il aura encore compassion de nous et mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Michée 7, verset 19. Et le langage des ténèbres, on se rappelle, on a fait référence tout à l'heure au psaume 107, mais on se rappelle, c'est l'une des images. Ceux qui marchaient dans les ténèbres, et cela décrit la condition de l'être humain. Mais tout l'Ancien Testament, et rien que dans la forme de ce cantique, fait référence au reste de l'Ancien Testament. Mais tout l'Ancien Testament nous parle du Sauveur, du Rédempteur. Chaque prophète, chaque prophétie apporte une image ou un élément pour que nous puissions comprendre et voir ce qui a été annoncé. N'est-ce pas ce que Jésus avait dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs ? Quand il marchait en Luc 24 avec eux, il marchait sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24 et verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et verset 32, les disciples se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en ce chemin et nous expliquait les Écritures ?» Verset 44 et suivant. Nous lisons, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Tout l'Ancien Testament annonce, prépare la venue du Seigneur Jésus-Christ. La préparation de la venue de Christ, elle est de plusieurs manières. Il y a une préparation historique, quatrième mot pour les enfants. Si on voit toute l'histoire dans l'Ancien Testament, on voit que l'adversaire, que Satan a cherché à empêcher l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève en Genèse 3, que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. On voit que le monde se détourne de Dieu. Genèse 6, il est méchant par-dessus tout, mais Dieu envoie le déluge pour juger et il préserve Noé et sa famille pour un nouveau départ. Puis on lit que la postérité de Noé se tourne vers de faux dieux. Et là, l'Éternel appelle Abraham et fait l'alliance avec lui. On voit le peuple d'Israël, d'où doit venir le Sauveur sur un plan humain. On le voit en esclavage en Égypte, on le voit en péril. Pharaon qui va s'endurcir et qui veut détruire ce peuple. Et l'Éternel le délivre. Et tout au long de l'histoire, on a cette promesse de Genèse 3, verset 15, qui résonne. Dieu a un but et même l'adversaire ne peut pas l'empêcher d'accomplir ce dessein. L'histoire prépare la venue du Messie. Il y a une préparation typologique. Et c'est ce que la lettre aux Hébreux parle des ombres, cinquième mot pour les enfants. L'Éternel va nourrir le peuple d'Israël avec de la manne. Il va leur donner de l'eau d'un rocher, un rocher qui a été frappé. Et le Nouveau Testament nous dit que cela représente Christ. Christ qui est le pain de vie, Christ qui est celui qui nous donne une eau vive. Et toutes les autres ombres, il y a l'agneau de la Pâque, il y a la colonne de feu, il y a le tabernacle, il y a le serpent élevé, Jean 3, verset 18. Tous ces types annonçaient, préparaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi, après la préparation historique et la préparation typologique, la préparation, je dirais, psychologique, sous l'Ancienne Alliance. Celui qui lisait la révélation, ce que Dieu révélait, il y avait une vérité qui était de plus en plus claire. C'est que l'homme, par ses moyens, est incapable d'arriver au salut. Sixième mot pour les enfants. Incapable d'arriver au salut. Paul le dira dans sa lettre aux Galates, par exemple, que le but de la loi était de nous garder jusqu'à la venue de Christ. Galates 3, verset 23, « Ayant avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Pour être sauvé de la culpabilité, de la condamnation, de l'esclavage, cela devait venir de quelqu'un de l'extérieur. Cela ne pouvait pas venir et cela ne peut pas venir de l'homme. Et nous avons cette bonne nouvelle dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui délivre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a une préparation historique, préparation typologique, préparation psychologique, une préparation prophétique. Septième mot pour les enfants. Et là, on se rappelle de toutes les annonces. Moïse qui dit en Deutéronome 18, par exemple, qui annonce qu'un prophète comme lui viendra. Et cela, il nous est cité en acte 3. Il y a David qui annonce la venue du Sauveur dans le psaume 110, par exemple. Il parlera du Seigneur qui est assis, psaume 110, les premiers versets. Un psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et puis plus tard, tu es sacrificateur, verset 4, pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il ne s'adresse pas, bien sûr, l'Éternel ne s'adresse pas à David, mais il s'adresse au Sauveur, il parle du Seigneur Jésus-Christ qui va venir. Il y a Ésaïe, nous avons lu tout à l'heure, le passage en Ésaïe chapitre 9, mais il y a le chapitre 7, verset 14, le chapitre 8, verset 8, il parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. Bien entendu, Ésaïe chapitre 53, qui parle de ce que le Seigneur est venu et de ses souffrances. Jérémie, Zacharie parlent d'un germe de justice. Ésaïe, en chapitre 11, parle d'un rameau, d'un rejeton, dans la maison de David. Et rejoint ici ce que Zacharie dit, qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, pas dans la maison de Lévi, dans la maison de David. Jérémie 23 nous dit que son nom est l'Éternel, notre justice. Ézéchiel et Zacharie parlent d'un berger. Daniel 7 va parler de celui qui est sur la nuée, qui domine. Michée 5 parle de Bethléem, qui se réjouit. Malachie 3 parle du messager de l'Alliance. Tout l'Ancien Testament parle, annonce, prépare la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Le salut est annoncé depuis Genèse, tout au long de l'Ancien Testament. Il a fait la promesse et maintenant, il l'accomplit. Deuxième point, le salut accompli. Huitième mot pour les enfants. Zacharie annonce, il annonce ce message. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Comment ? Verset 69. Il nous a suscité un puissant sauveur, ou comme j'ai dit, une corne de salut. Et les versets 71 et 74 soulignent que cette corne est le symbole de puissance, le symbole d'une puissance destructrice, un sauveur qui nous délivre, qui détruit l'ennemi. Sauveur, neuvième mot pour les enfants, pardon. Une puissance destructrice. On a cette image, bien entendu, encore une fois, toujours dans le Nouveau Testament, psaume 75, verset 6. Psaume 75 et le verset 6. « N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. » Littéralement, « N'élevez pas si haut votre corne. » Et au verset 11, « J'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste sont élevées. » Encore une fois, « J'abattrai toutes les cornes des méchants, les cornes du juste sont élevés. C'est le symbole de force, symbole de puissance, symbole de celui qui vient, qui détruit l'ennemi. Et en détruisant l'ennemi, il délivre son peuple et il devient une corne de salut. Il devient un sauveur, il est ce sauveur puissant, capable de détruire l'ennemi et de sauver son peuple. Il est celui qui est venu vaincre, il a vaincu, dixième mot pour les enfants, il a vaincu Satan et tous ses alliés. Il a écrasé la tête du serpent, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les puissances du mal. Il est venu et il a vaincu. C'est le thème, ou un des thèmes du livre de l'Apocalypse et des chants qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 5, verset 5 par exemple. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Au chapitre 12 et verset 9 à 10, nous lisons, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Et on se rappelle de ce que Jésus avait dit à ses disciples en Luc 10, verset 18. Il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et en 17, en chapitre 17, Apocalypse 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et encore mieux, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Non seulement l'agneau, mais tous ceux qui le suivent seront vainqueurs avec lui, parce que c'est lui qui les délivre de la main de l'ennemi. Et lorsque Zacharie parle du rôle de Jean, il le décrit par rapport au Sauveur. Il dit, Jean, c'est toi, petit enfant, verset 76, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il est le messager de Dieu. Il est celui qui prépare les voies du Seigneur. Comment ? Il appelle les gens à la repentance, à la foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous ce qu'il a dit quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon du péché. Donner au peuple la connaissance du salut. Jean a commencé son ministère en appelant les personnes à se repentir, et il soulignait la culpabilité de chacun. L'apôtre Paul, par exemple, va faire exactement la même chose dans sa lettre aux Romains. Il va, dans les premiers chapitres, parler de la culpabilité de chacun. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur ? Parce que je suis coupable, parce que je suis pécheur, parce que je suis pollué par le péché. Et je fais le mal parce que mon cœur est mauvais. C'est le cœur qui est mauvais, et c'est le cœur qui doit être changé. Et c'est d'abord la connaissance du péché, la conscience de notre culpabilité et de cette pollution qui est nécessaire avant d'arriver à la foi en Jésus-Christ. Tout à l'heure, Nathan avait cité le verset de Romains 7, et c'est l'expérience de Paul. « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et si on lit les versets qui précèdent, et Paul est conscient, il dit « Je vois dans ma chair une loi qui est contraire à la loi de Dieu. » Je fais ce que je veux et ce que je veux. Je fais ce que je ne veux pas et ce que je veux, je ne le fais pas. Ou ce que je ne veux pas, je le fais. Malheur à moi, qui me délivrera ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jean va annoncer ce merveilleux message du salut du Sauveur. C'est Dieu qui sauve. Et verset 77, il le précise, par le pardon de ses péchés. Ce n'est pas par les mérites. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas en suivant une certaine série de règles, de lois, mais le pardon des péchés. Et cela nous rappelle, bien sûr, déjà l'expérience que nous avons dans l'Ancien Testament. Psaume 32. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 1 et 2. Psaume 103, verset 3, par exemple, exprime la même chose. Cela montre que le salut est le même depuis le début, depuis le livre de la Genèse. Il n'y a pas deux moyens pour être sauvé, c'est toujours par grâce, par la foi, par le moyen de la foi, dans ce Sauveur, dans ce Messie, dans ce substitut que Dieu a donné, qu'il a annoncé dans l'Ancien Testament et qu'il nous a donné en son, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Ésaïe, par exemple, s'écrit en Ésaïe 55, « Venez acheter sans argent, sans rien, vous n'avez rien, mais venez acheter, prenez. » Et c'est l'invitation de l'Évangile, c'est ce que Paul rappelle par exemple en Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce, 12e mot pour les enfants, et Zacharie précise, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Équipé de cette miséricorde, le soleil levant nous a visités d'en haut. L'expression soleil levant fait écho à Malachie 4, verset 2, qui parle du soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Le salut est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ est venu délivrer et sauver un peuple, sauver son peuple et accomplir ce salut parfaitement. Tout cela est par grâce, par le moyen de la foi. Le salut est accompli. Jésus est venu pour racheter son peuple. Troisièmement, le salut appliqué. 13e mot pour les enfants. Dieu a annoncé, il a accompli. Quel est le but du salut? La gloire de Dieu. Dieu rachète un peuple pour lui. Verset 74. Afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Appelé, délivré pour servir Dieu. 14e mot pour les enfants. Appelé, délivré de l'esclavage, délivré de nos ennemis pour servir Dieu. Sans crainte. Et on retrouve le langage, par exemple, du psaume 27. Psaume 27 qui commence comme ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà la confiance du croyant. Voilà la confiance de celui qui connaît Dieu, qui connaît et qui est réconcilié. L'Éternel, il parle de l'Éternel comme étant mon salut, comme étant ma lumière, comme étant le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur et de qui aurais-je crainte? Et il exprime plus tard son désir d'habiter constamment dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais voilà la confiance du croyant. Et on peut retrouver cette même confiance, par exemple, dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous accusera? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu, Romains 8. Cette chaîne que nous avons à partir du verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et l'apôtre Paul va donner une liste. Et sa conclusion, c'est que personne, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Délivré pour servir Dieu sans crainte. Verset 75, pour marcher devant lui, être dans sa présence constamment, d'avancer dans ce monde vers notre destinée, vers cette demeure que le Seigneur Jésus-Christ prépare, dans la sainteté et la justice, c'est-à-dire en nouveauté de vie, dans une vie séparée de la vie du monde, tous les jours de notre vie, pas de manière occasionnelle, pas une fois par semaine, pas périodiquement, mais tous les jours, constamment. Et il y a un changement radical lorsque nous lisons au verset 79. Radical, c'est 15e mot pour les enfants. Nous étions assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Une position dangereuse, une position de désespoir. Le terme de ténèbres peut représenter plusieurs choses dans les Écritures. Il peut, par exemple, parler du fait que l'on soit aveugle. C'est ce que nous avons dans 2 Corinthiens 4, les versets 4 et 6, par exemple. Nous lisons « Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ténèbres peut parler d'être aveugle, ça peut aussi être l'image de quelqu'un qui est perdu, qui est séparé de Dieu, qui est dans une situation de dépravation, dans un état dépravé. Paul, par exemple, en Actes chapitre 26, il rend témoignage et il raconte la rencontre sur la route de Damas. Et il cite ici, Actes 26, verset 17, les paroles du Seigneur qui lui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière » et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, des ténèbres sous la puissance de Satan, dans un état de perdition. Mais aussi, cela peut décrire le fait d'être découragé, de ne pas voir de solution, d'être dans les ténèbres. Et bien sûr, l'opposé des ténèbres, c'est la lumière, 16e mot pour les enfants. Et la lumière peut dire, comme nous l'avons lu en 2 Corinthiens, que c'est la véritable connaissance de Dieu. Le monde est dans les ténèbres, mais Christ, et Dieu a dit, qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, lui a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a aussi, à l'opposé d'une vie perdue, de dépravation, une vie à la gloire de Dieu. C'est ce que Paul écrira aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 4 et au chapitre 5. Et puis il y a le fait d'être le contraire, d'être découragé, c'est-à-dire de se réjouir. Et quand Jésus visite, qu'il sauve ce peuple que le Père lui a donné. Il apporte avec lui la lumière, la connaissance, la véritable connaissance de Dieu. Il apporte cette nouvelle vie dans la présence de Dieu. Et il apporte la joie, 17e mot pour les enfants, la joie du salut. Par ses paroles, par son enseignement, par sa puissance, sa délivrance, par sa grâce, il remplit nos cœurs. Nos cœurs sont pleins de lumière, parce que lui est la lumière. Nous étions dans les ténèbres, mais par la grâce de Dieu qui nous a visités, il nous a amenés dans son admirable lumière. Et ensuite, il dit, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous étions assis dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes debout, marchant, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il éclaire, il apporte la lumière pour nous diriger dans les pas, dans le chemin de la paix. À la fois objectivement, dans le sens que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais aussi subjectivement, c'est-à-dire que nous avons cette assurance réconfortante que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu, que la justice de Dieu a été entièrement satisfaite par ce que Jésus-Christ est venu et ce qu'il a accompli. Le soleil levant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dirige nos pas dans le chemin de la paix. C'est lui qui le fait. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous conduit. Un salut annoncé depuis les temps anciens, depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden. Un salut annoncé tout au long de l'histoire. Un salut qui est accompli dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Un salut qui est appliqué dans le cœur de tous ceux que Dieu a choisis et qu'il appelle par sa grâce. Zacharie attendait. Zacharie priait pour cette délivrance et Zacharie se réjouit de ce que Dieu a répondu à sa prière. Et il loue la bonté et la grâce de Dieu. Et cela écarte, cela surpasse sa joie d'être devenu père. Cette joie de voir la réponse de Dieu, de voir le salut que Dieu accomplit est beaucoup plus grand que le fait d'être devenu père à un âge avancé. Et il m'en fait monter vers Dieu, vers l'Éternel, sa reconnaissance et sa louange. Et notre prière, c'est que nous aussi, nous fassions monter vers Dieu notre reconnaissance. Un cantique similaire, un cantique similaire à celui de Zacharie. En reconnaissance pour Dieu qui, dans sa grâce, nous a donné un salut parfait, un salut qui avait été promis, un salut qui est accompli. Un salut dont nous sommes les bénéficiaires. Il nous a donné un sauveur parfait en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous passerons ces fêtes de Noël, nous sommes heureux de les passer en famille ou avec des amis, mais que nous puissions aussi nous réjouir comme Zacharie, de savoir que cela est avant tout ce don merveilleux du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu accomplir un salut qui avait été annoncé et qui maintenant est accompli et qui est appliqué dans le cœur des enfants de Dieu. Que nos cœurs s'élèvent comme le cœur de Zacharie pour chanter la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pour terminer notre culte ce matin. Et nous allons prendre un cantique qui s'inspire de ce cantique de Zacharie, qui est mis en parole par Bénédicte Pictet, qui est le numéro 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout puissant, éternel.